Alors nous venons de quitter Lily Instinct, mais nous sommes toujours au cœur du cinéma pâté de Belfort, donc pour le Festival international du film Entrevue. Donc voilà, je me perds un petit peu là, mais je reprends. Benoît Basirico nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais essayer de faire des présentations courtes parce qu'il y a pas, vous avez travaillé pour pas mal de supports, il semblerait. Mais en tout cas, vous êtes journaliste spécialisé en musique de film, c'est ça?
Tout à fait.
Ok. Et donc, pour faire une liste. Une petite liste. Vous avez travaillé pour Studio Magazine, Even, Trois Couleurs, Trax, et vous dirigez depuis 2005 Cinésique.fr, c'est ça?
Tout à fait. Disons qu'avant d'être journaliste spécialisé dans la musique de film, j'ai été journaliste cinéma.
Ouais.
Et donc j'ai surtout travaillé pour Studio Magazine, puisque j'ai été salarié là-bas pendant 2 ans. Mm-hmm. Les autres supports sont des piges, donc c'est occasionnel quand ça existait, puisqu'Even n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, j'ai pu piger dans ces supports. Voilà, tout à fait. Ça a été, en fait, j'y étais avant que ça soit acheté par le Figaro.
D'accord. Du coup, la question est très simple. Comment s'est opérée la transition vers les musiques de film, du coup?
Alors moi, mon intérêt pour la musique de film date de mes études, puisque quand j'étais étudiant, j'avais une émission de radio dans une radio associative de province à Poitiers, puisque maintenant je suis à Paris. Quand j'avais cette émission de radio, évidemment, la radio, c'était l'oreille. Et pour moi, il n'était pas possible de faire une émission de cinéma sans diffuser la musique des films. Parce que bien souvent aujourd'hui, il y a des émissions de cinéma sur les radios généralistes, mais ils parlent des films, et puis ensuite, quand il faut passer de la musique, bah, c'est du rock, du jazz, voilà. Et donc pour moi, vraiment, le lien entre la musique et le cinéma vient de la radio, parce que voilà, fallait faire entendre le cinéma.
Est-ce que ça veut dire que vous regardez un film avec les oreilles?
Eh bien, le cinéma, c'était... il y a eu la période muette, évidemment, mais même pendant la période muette, il y avait des orchestres de fosses qui interprétaient de la musique. Donc, ça a toujours été les yeux et l'oreille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le public s'y intéresse à la musique, mais c'est vrai que tout ce qui est les professionnels, on va dire, journalistes, ou même les réalisateurs, qui ne savent même pas qu'il y a besoin d'une musique dans leur film, ça, c'est...
Mais alors, comment ce que vous entendez, Benoît Basirico, va-t-il influencer ce que vous voyez?
Ce que j'entends influence mon rapport au film autant que la photo, que les comédiens, que tous les éléments d'un film, finalement. Tous les éléments d'un film, je suis perméable à tout ce que le film me propose. Et donc, la musique en fait partie au même niveau que le reste, en fait. Voilà.
Et du coup, moi, je me permets une question facile. Quelle est la meilleure bande originale de film?
Je serais plus facilement capable de répondre à quel est le meilleur film. Je pourrais en citer 3-4 qui sont pour moi les films qui m'ont vraiment marqué.
Allez-y.
Puisque vraiment, je viens vraiment du cinéma dans la mesure où pour moi, la musique de film, c'est vraiment lié au film. Donc j'ai du mal à dissocier, même si évidemment il y a une industrie discographique, hein, qui vend des disques, qui commercialise la musique, mais pour moi une musique de film a un intérêt que si elle est bonne pour le film. Et donc évidemment j'aime beaucoup De Milan aussi de l'espace, hein, c'est un de mes films fétiches, même s'il n'y a pas de musique originale, donc là c'est intéressant de dissocier musique originale et musique préexistante. Et Stanley Kubrick pour 2001 n'a que utilisé des musiques classiques savantes de Ligeti à Strauss. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Après, évidemment, j'aime beaucoup Fellini. Je pourrais citer 8,5 ou La Dolce Vita. Et là, il y a une collaboration avec Nino Rota. Et donc, toutes les collaborations Nino Rota-Fellini, pour moi, c'est exemplaire. Mmh. Et au moment où nous parlons, ici même, se projette Les Oiseaux de Hitchcock, un film sans musique. Mais le compositeur a quand même travaillé sur le film. Donc, c'est Bernard Herrmann, le compositeur, et Alfred Hitchcock, le réalisateur. Collaboration également fructueuse, qui est pour moi vraiment, tous les films d'Hitchcock avec la musique d'Herrmann, Vertigo, Sueur froide, et puis La mort aux trousses, ce sont des chefs-d'œuvre. Et en ce moment, donc, Les Oiseaux, Bernard Herrmann, en fait, n'a pas composé de musique, mais Hitchcock lui a demandé de concevoir tous les sons des cris d'oiseaux. Donc c'est intéressant, les cris d'oiseaux sont des vraies partitions dans ce film Les Oiseaux. Et je me suis rendu compte qu'on ne s'intéressait pas aux compositeurs. Donc après, je me suis dit, je vais faire un site internet. Donc j'ai créé cinésique.fr pour parler de ces compositeurs dont on ne parle pas. On parle surtout des comédiens et des réalisateurs. parfois des chefs op ou des scénaristes et parfois des compositeurs. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous vient le plus à l'esprit.
Pourtant, beaucoup de réalisateurs et même pour beaucoup de spectateurs, dont moi par exemple, la musique est quelque chose de très important dans un film. Mmh. Et au-delà des réalisateurs-compositeurs dont vous nous parlerez demain à 14h, quelle belle transition, il y a aussi ces réalisateurs qui imaginent, ou en tout cas qui écrivent leurs films comme on écrirait de la musique. Je pense à Jonathan Cahouette par exemple, ou Serge Bozon, peut-être dans une moindre mesure. Est-ce que ces films-là, vous les voyez différemment? Vous les voyez comme une chanson, puisqu'ils envisagent ces films comme une chanson?
Bah là, c'est vrai que vous avez raison, la première musique d'un film, c'est le montage. Et pour moi, le monteur est aussi un musicien dans la mesure où c'est une question de rythme. Et Robert Bresson écrivait la partition de son film de manière rythmique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y avait pas de musique dans ses films, ou rarement, si ce n'est du Schubert ou du Eric Satie dans un film ou deux. Mais pour Bresson, le montage était musical, il ne pouvait pas y avoir une deuxième musique. Donc voilà, ça c'est le point de vue de Bresson. Après, il y a des réalisateurs comme Tarantino qui vont utiliser des disques pour faire leur partition et rythmer les images, c'est-à-dire qu'ils vont monter à partir de la musique. Donc là, ce n'est plus leur montage qui est musical, mais c'est le montage qui va s'adapter à la musique existante. Donc il y a voilà, plein de manières pour un réalisateur de créer une musicalité, on va dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la musique de musical. C'est vrai. Le rythme, les dialogues aussi, la voix, parfois un murmure, parfois juste un dialogue va bien sonoriser le film, va créer comme ça une incantation dans l'oreille.
Même dans les gestes aussi.
Ouais, tout à fait. Puis il y a aussi des partitions sonores qui sont faites que de bruits d'oiseaux, de bruits de mer, d'eau.
Alors ici, au Festival Entrevue, depuis quelques années, il y a un prix qui récompense la musique de film, c'est le prix One Plus One. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer un petit peu le jury et puis d'être impliqué d'une manière ou d'une autre à ce prix? Et qu'est-ce que vous pensez en tout cas de l'idée d'Entrevue d'avoir institué un prix spécifique pour récompenser la bande son?
Alors je viens d'arriver sur le festival, donc j'ai pas encore rencontré les jeunes jurés de cette année. Je sais par exemple que l'année dernière il y avait Alex Baupin qui était le parrain, et je connais bien Alex Baupin qui a composé les films de Christophe Honoré. Et donc là voilà, c'est aussi une belle collaboration surtout sur les chansons. Et cette année c'est l'ESCOP. Donc c'est toujours intéressant pour un festival de cinéma de récompenser donc le prix d'interprétation féminine, le prix d'interprétation masculine, le prix du scénario, et souvent il manque. Donc là je parle de Cannes évidemment, vous l'aurez compris. Il manque toujours un prix de la musique à Cannes, ce qui est quand même une aberration. Et donc c'est bien qu'Entrevue, grâce à la SACEM, il faut bien citer cette entreprise société des droits d'auteur, qui donc perçoit les droits des auteurs et qui les reverse au prorata des entrées des films, etc. Donc c'est une grande société importante pour les compositeurs, et une partie de tous ces droits sont reversés à des événements et des dotations de prix. Donc voilà, le prix One Plus One en fait partie. Donc là, SACEM et Entrevue, vous faites bien.
Alors la musique dans un film peut avoir différentes fonctions, elle peut être illustrative, elle peut au contraire amener de la distance, jouer un rôle de contrepoint. Enfin, quel est le rôle que la musique qui vous intéresse plus particulièrement?
Vous avez l'air de vous y connaître aussi très bien, puisque c'est vrai que la musique a plusieurs rôles dans un film, hein, de contrepoint, de soulignement, de synchro, de voilà. Et tout cela, je le prends en fait. C'est vraiment la musique, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas une bonne musique en soi, ou une bonne musique de film. C'est vraiment en fonction d'un film. D'ailleurs, les compositeurs qui ont des habitudes, c'est pas forcément les meilleurs. Il faut vraiment, c'est d'ailleurs Bruno Coulet qui le dit souvent, que en fait, une bonne musique de film, c'est faut casser ses habitudes et toujours se poser des questions. Quelle est vraiment la musique qu'il faut pour ce film? Donc vraiment au cas par cas, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a une évolution? Enfin, est-ce que ça marche un peu par période, ou à certaines périodes, les films vont plus utiliser la musique justement dans un rôle que dans un autre? Benoît Passirico.
Oui, c'est vrai. Il y a eu, par exemple, dans les années 60-70, beaucoup de thèmes qui étaient d'ailleurs très bien commercialisé et des disques se faisaient à partir de thèmes de chansons, de films ou de thèmes de musique de films originales. Ennio Morricone était dans le top 50, ce qui est aujourd'hui inenvisageable. Vladimir Kosma, Michel Legrand, etc. Donc c'est vrai que dans les années 70, peut-être avec l'expansion de l'industrie discographique et du clip qui faisait que, et des Scopitone comme on l'appelait à l'époque, avec l'époque yéyé, etc., fait que d'ailleurs beaucoup de compositeurs de films viennent étaient au départ arrangeurs pour la chanson. Ce qui était le cas de Michel Legrand, mais ce qui était aussi le cas de Jean-Claude Petit, qui a signé après Cyrano Bergerac, qui était l'arrangeur de Claude François. Donc il y avait comme ça une place prépondérante à la musique comme une industrie musicale en soi. Aujourd'hui, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est un lien avec la crise de l'industrie du disque, mais en tout cas, il y a de moins en moins de thèmes et de place vraiment à la musique. Disons que c'est de plus en plus rare qu'une musique faite pour un film soit après le fruit d'une commercialisation intense et soit dans les charts. En revanche, ce qui prolifère aujourd'hui, c'est l'utilisation de tubes préexistants et de le mettre dans un film. Bien souvent, un réalisateur, c'est pour lui une manière de s'assurer ses arrières en disant, bon, si la séquence ne marche pas, au moins on se souviendra de la chanson. Et donc, évidemment, je pense à Drive, Kavinsky cartonne avant même d'être dans le film. Alors après, évidemment, ça l'a boosté davantage, mais en tout cas, voilà, il n'avait pas besoin du film Kavinsky pour exister. Ce qui est le cas aussi pour Tarantino et pour plein d'autres réalisateurs.
Ça veut dire que Drive est un mauvais film ?
Non, j'aime beaucoup.
D'accord.
J'aime beaucoup. Oui, non, Drive, c'était un très très grand film. Ce que je veux dire, c'est que le réalisateur a utilisé cette chanson, cette musique dans le film, qui a d'ailleurs qui a été très très bien utilisée. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que contrairement aux années 70, où c'est par le film que la chanson aurait été faite, là, la chanson préexister au film, ce qui n'empêche pas le film d'être très bien et la chanson d'être bien utilisée. Cela ne doit pas faire oublier qu'il y a un compositeur également sur ce film, Cliff Martinez, et ça c'est une autre tendance de la production musicale de films aujourd'hui, c'est de faire des textures, des ambiances plus que des thèmes, voilà. Et donc Cliff Martinez aujourd'hui, d'ailleurs il me le disait en interview, je l'avais rencontré au Festival de Cannes l'année dernière, où il présentait le nouveau film de Refn, après Drive, Only God Forgives, et il disait que c'était Soderbergh qui lui a dit ne fais pas de thème qui puisse écraser le film, contente-toi juste de faire une musique discrète en fond, et c'est là où son style s'est façonné. Aujourd'hui c'est vrai que Cliff Martinez ne fait que ça, des textures. Ce que je trouve vraiment génialissime, puisque justement ça soutient vraiment les films, ça les dramatise même aussi. Dans Drive, c'est splendide. Voilà, c'est juste une tendance aujourd'hui. Alexandre Desplat en a un exemple. Pour Jacques Audiard, il a reçu le César pour le dernier film de Rouillet-Dos. Il a reçu le César de la meilleure musique, mais j'ai envie de rencontrer les jurés et leur demander, mais vous vous souvenez de la musique d'Alexandre Desplat de Rouillet-Dos?
Alors, au-delà de ces musiques qui sont composées, vous allez parler demain des réalisateurs-compositeurs. Alors, moi, je ne connais pas de réalisateurs-compositeurs. Du coup, ma première question est assez simple. Qui sont les réalisateurs qui composent eux-mêmes leur musique ?
Eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup, en fait. Plus que l'on pense, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui deviennent réalisateurs. Alors, il y a des musiciens qui sont venus réalisateurs, mais il y a aussi des réalisateurs qui n'étaient pas du tout musiciens et qui ne savaient même pas écrire la musique et qui se sont improvisés musiciens par défaut parce qu'ils n'avaient pas de budget pour faire appel à un compositeur, première raison. Deuxième raison, parce qu'il n'y avait pas assez de musique dans leur film pour faire appel à quelqu'un et leur dire « bon, fais-moi juste trois notes ». Et puis troisième raison, c'est juste une question d'ego. Un artiste a du mal souvent à faire confiance à un autre artiste. Donc voilà. Et donc il y a John Carpenter ici en rétro qui fait la musique de ses films. Il y a Charlie Chaplin, c'est le premier évidemment, qui du temps du muet faisait des films muets, mais s'est dit une fois que le parlant, c'est qu'il avait du mal, Chaplin, à passer au parlant. Ces films ont été très longtemps muets, en fait. Les Temps modernes a été réalisé alors que le parlant était là. Mais donc d'ailleurs, il y a quelques voix dans le film, mais lui ne parle jamais, et il y a des séquences intégralement muettes. Et il y a même d'ailleurs encore quelques cartons, alors que c'est vraiment un film parlant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a tardé à vraiment faire des films parlants, et donc pour lui de faire la musique de ces films permettait de prolonger la période du muet. Et il a donc 40 ans après fait la musique de ses films muets. Et ils sont ressortis. Pour l'anecdote, il a reçu un Oscar dans les années 70 pour le film Limelight, où il joue et tout ça du violon dans le film. Donc en fait, le film a été interdit de sortie aux États-Unis à ce moment-là parce qu'il y avait des affaires de mœurs qui l'interdisaient d'être sur le territoire américain. Et donc le film est ressorti aux États-Unis dans les années bien longtemps après, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'Oscar de la meilleure musique. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Alors vous parliez des difficultés de budget, Benoît Passirico, mais justement, comment aujourd'hui le contexte financier qui est extrêmement difficile, ça peut aussi empêcher à des collaborations entre un compositeur et un réalisateur de voir le jour?
Oui, c'est-à-dire que évidemment la musique ça a un coût. Il faut payer donc. Alors, bien souvent, les compositeurs ne demandent pas de contrat de travail parce qu'il y a la SACEM, encore une fois, qui rétribue. Donc, ça leur permet d'avoir une rémunération a posteriori sur la carrière du film. Donc, bien souvent, il n'y a pas de problème de coût au niveau de faire appel à un compositeur. Après, il y a des coûts s'il faut la faire enregistrer par un orchestre. Donc bien souvent, quand il n'y a pas d'argent, eh bien, c'est la maquette qui prime. C'est-à-dire que le compositeur va faire une maquette, va faire des fausses cordes avec son logiciel informatique. Et donc c'est vrai que moins il y a d'argent, plus se développe ce système de maquette.
Fabien Velasquez.
Tout à l'heure, vous nous parliez de cette tendance un peu actuelle de certains compositeurs de créer plutôt des textures ou des atmosphères sonores. Ça m'évoque une question par rapport à une certaine, peut-être le mot est exagéré, mais prolifération de ciné-concerts dans les festivals ou dans les, même comme ici, entrevues. Et je voulais savoir quel était votre point de vue sur cette nouvelle forme, en fait, peut-être une prolongation du muet, mais sous forme actuelle, avec des musiciens électroniques ou autres qui s'approprient des films du patrimoine pour donner une nouvelle partition, en fait.
Alors, le ciné-concert, finalement, il y a plusieurs formes de ciné-concert. La première forme de ciné-concert, c'est celle qui existait au début du cinéma, finalement, qui est finalement une manière de reproduire ce qui se passait au temps du muet, qui est donc projection du film muet avec un orchestre dans la fosse, comme s'il se passait, ou un simple piano. Donc ça permet aujourd'hui, peut-être à un jeune public, de découvrir des films muets, puisqu'il ne les découvrirait pas comme ça. Ça, c'est une raison. Et aussi, une autre raison, c'est tout simplement parce qu'il y a des films muets qui sont vraiment muets. C'est-à-dire qu'en fait, sur la pellicule, pas de musique. Donc la seule manière de projeter, parce qu'aujourd'hui c'est inenvisageable de faire une séance avec juste le film muet, quoi. Donc évidemment c'est une manière de projeter le film muet, c'est d'avoir que le public vienne, c'est de quand même de voilà d'avoir une musique qui l'accompagne. Donc ça c'est la première raison. Après il peut y avoir une recréation, c'est-à-dire d'utiliser un film qui n'est pas forcément d'ailleurs un film muet, ça peut être un film contemporain, et de faire une recréation musicale sur ce film muet ou pas d'ailleurs. J'ai d'ailleurs vu un film d'Argento, Les frissons de l'angoisse, avec une formation de jazz rock qui reprenait complètement la musique des Gobelins et qui mettait le son des meurtres, et puis quand ça parlait, ça discutait, tac, il coupait et il faisait le concert. Donc c'était une manière de revoir le film d'une autre manière. Et puis il y a aussi des films muets qui se font aujourd'hui. The Artist, ils font une tournée en ce moment, The Artist, le film d'Azanavicius qui a reçu plein de prix. Et donc c'est aussi une autre manière peut-être de refaire du film muet aujourd'hui, parce que ça fait spectacle, quoi.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc moi, je viens de Strasbourg et on a un festival qui s'appelle Musica, qui est dédié à la musique contemporaine. Et ils ont fait venir Azanavicius pour faire le ciné-concert. Et je trouve que c'est un très beau moyen de faire se croiser les genres et surtout de faire entrer une culture un petit peu plus populaire dans des festivals comme ça qui sont très cadrés. On a l'impression qu'ils sont très fermés, comme le festival Musica. Donc c'est aussi un autre moyen de se faire croiser les cultures.
Ouais, c'est une manière de faire découvrir les films anciens, mais aussi les musiques savantes.
Oui, exactement.
Oui, ça fait quand même aussi plusieurs décennies maintenant que les musiques populaires ont fait leur entrée dans les musiques de films.
Oui, y a une grande tradition orchestrale, musique savante. C'est dans les débuts de la musique de film, ils étaient tous des musiciens de musique contemporaine ou savante. À l'époque, il y avait Erik Satie, il y avait même Prokofiev en Russie, et puis aux États-Unis, tous les grands compositeurs américains, que ce soit Bernard Herrmann ou Elmer Bernstein ou Dimitri Trumkin, enfin je ne vais pas tous les citer, étaient des compositeurs de musique savante qui venaient presque de la majorité, même de l'Europe de l'Est. C'est les Juifs qui émigraient aux États-Unis, qui étaient compositeurs savants. Et donc, les compositeurs qui faisaient que de la musique de film, c'était très rare à l'époque. Et les premiers à le faire sont ceux qui venaient du jazz. Donc Michel Legrand, par exemple, vient du jazz. John Williams était pianiste de Henry Mancini, Ils venaient du jazz. Et puis voilà, encore aujourd'hui, dans la musique, beaucoup viennent du jazz. Le jazz considéré comme une musique populaire. Et qui donc, la première incursion de la musique populaire dans le cinéma, on peut dire que ça vient du jazz. Alors après, ça s'est développé très récemment avec le rock. Nick Cave fait de la musique de film. Un Oscar pour Trent Reznor. C'est le premier artiste rock de l'histoire du cinéma qui a reçu un Oscar. Donc c'est pas rien.
Mais il n'existe pas aujourd'hui des compositeurs qui ne font que des musiques de film.
Ah oui, ça existe, tout à fait, oui, juste parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais tout compositeur de musique de film est d'abord, avant tout, compositeur, évidemment. Mais il arrive qu'il y ait aujourd'hui des compositeurs qui ont fait autre chose avant, mais qui aujourd'hui, si on prend leur carrière sur les 5 dernières années, n'ont fait que de la musique de film. Par exemple, Alexandre Desplat, les 5 dernières années, il a fait que de la musique de film parce qu'il n'a juste pas le temps de faire autre chose. Il a peut-être envie de faire un opéra, mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il a tellement de contrats aujourd'hui, il fait une dizaine de BO par an. Donc c'est vrai que pour l'instant, il fait que de la BO, quoi.
Alors il est 19h, on va peut-être passer à une petite pause musicale justement avant de retrouver les réalisateurs du film Chantier A. Avant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez aller voir comme film au festival.
Alors, Les Oiseaux, c'est raté.
Désolé, c'est notre faute.
J'ai envie de voir un film d'un réalisateur que je connais bien, qui s'avère très musical, de Yann Klipper, qui est projeté demain matin, 11h, non, midi et demi, et qui s'appelle Jukebox, je crois.
À midi et quart.
Midi et quart, voilà. Voilà, donc si j'y serai avant ma conférence.
Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Alors moi, quand j'écoute de la musique chez moi, j'écoute pas forcément de la musique de film, j'aime beaucoup le rock, la chanson française, le jazz, l'électronique. Donc voilà, j'écoute plein de choses. Qu'est-ce que je viens de découvrir ? J'ai écouté le dernier album de Guillaume Depardieu, que je trouve splendide. Mm-hmm. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit, je l'ai découvert cette semaine.
Et avez-vous, juste une dernière question, avez-vous vu Chantier A, le film justement qui est réalisé par Tarek Sami et Lucie Desch ? Et nous allons les recevoir. Non, parce qu'il y a un travail sur la musique qui est assez particulier, justement.
D'accord, ouais. Je vais surveiller.
Eh bien, merci en tout cas, Benoît Bazirico, d'être venu.
Merci à vous, et puis bonne continuation sur le festival.
Et puis à demain pour cette conférence, donc à 14h, les réalisateurs compositeurs. Merci beaucoup.
Tout à fait. Au revoir, à demain.
Au revoir.
Fluxfort.
Fluxfort.
Fluxfort Mix.
Mix.